Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h46, suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, l'historien Jean Garrigue et Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction du journal Ouest France à Paris. Allez, on va parler de ce nouveau rebondissement dans le feuilleton des Républicains. Après la démission d'Hubert Falco avant-hier, celle de Christian Estrosi hier, ce matin, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé qu'elle serait finalement tête de liste pour La République En Marche en région PACA.
Je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour. Ça ne changera plus. L'objectif était de pouvoir répondre à cette main tendue que Renaud Muselier avait fait mercredi dernier. Depuis, ça a déchaîné quelques égos masculins avec des invectives, avec une violence absolument stupéfiante. Moi, je parle plutôt même d'un combat de coq parisien auquel on a eu droit.
Sophie Cluzel, chez nos confrères de France Info, qui prend clairement le contre-pied de Jean Castex, puisque ce week-end, le Premier ministre avait annoncé au journal du dimanche qu'il se désistait au profit de Renaud Muselier. Vous comprenez ce qui se passe, vous, Guillaume Tabar?
Déjà, il faut prévenir que le feuilleton n'est pas forcément terminé.
C'est
parce
sûr.
Que ce matin, Sophie Cluzel a dit qu'elle ferait une liste, que ce serait la liste de la majorité. J'ai cru comprendre que dans la journée, de nombreux responsables nationaux et locaux de La République En Marche continuaient à lui dire non, il ne faut pas faire de liste, il ne faut pas y aller. Donc, attendons le 16 mai, parce que le 16 mai, c'est le dépôt des listes. On saura vraiment, on sait vraiment ce qu'il en est.
Ça veut dire que c'est un coup de bluff, peut-être?
Non, mais je pense que maintenant, vous savez, la malheureuse Sophie Cluzel, elle a quand même été ballottée et instrumentalisée dans cette affaire-là. En gros, on lui conseille d'y aller. Christophe Castaner, Thierry Soler lui dit « vas-y, fais une liste ». Ensuite, pour des raisons nationales, on lui dit « non, il faut se retirer ». Je ne suis pas sûr même qu'elle était totalement dans la boucle de tout cela. Après, puis on lui fait assurer le service après-vente. Bon, et puis ensuite, l'opération capote. Et puis d'elle-même, elle essaye de se rattraper. Enfin, c'est bon. Y compris pour elle, je ne trouve pas que la méthode était très, très élégante ou très, très respectueuse. Il y a un petit paradoxe quand elle dit « oui, tout ça, c'est le fruit d'état-major parisien ». Précisément non. Ce qui se passe au sein de la droite, c'est une affaire locale. C'est Estrosi-Ciotti Estrosi et Falco contre Ciotti, Lisnard et d'autres. Donc c'est vraiment une guerre interne, royale. Et c'est du côté de En Marche que la stratégie, elle est nationale. C'est bien eux qui ont décidé que c'est le Premier ministre qui annonce un accord à dimension nationale. Donc le paradoxe, c'est que s'il y a eu un jeu d'appareil parisien, c'est plutôt du côté de La République En Marche. Bon.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Jean Garrigue, quand elle parle de combat de coq parisien, à propos de ce qui s'est passé?
Elle joue sur la corde féministe. Elle a raison, c'est de bonne guerre, mais incontestablement, l'erreur initiale, me semble-t-il, c'est l'intervention de Jean Castex. Il n'y avait pas besoin, d'abord, que le Premier ministre s'empare de cette affaire, parce que sur le fond, on peut très bien concevoir qu'ait pu exister une liste commune entre un Renaud Muselier, Estrosi, mais qui n'est pas dans la liste, mais les partisans de Christian Estrosi, Hubert Falco, etc., et des ressortissants de La République En Marche. Au fond, on voit très bien que c'est quasiment le même électorat qui est visé, d'autant plus qu'une partie de l'électorat captif des Républicains peut aujourd'hui être intéressé par la liste de Thierry Mariani. Donc, ça n'est pas illogique et incohérent qu'il y ait une liste commune. Il faut toujours se méfier des listes communes parce qu'en principe, c'est plutôt quand il y a deux listes qu'au deuxième tour, on est plus fort. Donc déjà, c'est une première maladresse. C'est une maladresse que ça soit Jean Castex qui soit intervenu, d'autant plus qu'on voit très bien comment ça se termine. On peut situer ça aussi dans la politique, c'était ça l'intention, alors à l'échelle nationale, de dislocation par les macronistes des Républicains. On voit bien d'ailleurs... Quelque part, c'est révélateur aussi de leur dissension, puisque on voit bien que à la suite de ça, Estrosi et Falco ont quitté les Républicains. Donc tout ça, c'est un peu une tragicomédie qui révèle surtout, me semble-t-il, la faiblesse de La République En Marche lors de ces élections régionales. Mais ça n'étonne personne, on le prévoyait. Et puis les difficultés, malgré tout, des Républicains à trouver une plateforme commune, à trouver une stratégie commune, c'est-à-dire par rapport à ces élections. Et surtout, dans l'anticipation, on le sait bien, de l'élection présidentielle.
Stéphane Werner, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y a deux lignes qui cohabitent au sein des Républicains. Il y a ceux qui pensent que seul un accord avec Emmanuel Macron permettra la survie, et puis il y a ceux qui pensent que la survie vient de la présentation d'un candidat.
Oui, je pense qu'il y a une vraie fracture, mais il y a plein de choses qui se jouent là. En fait, Vous savez, sur l'année dernière, sur les municipales, il y a eu plusieurs villes où il y avait des accords, des alliances entre les Républicains, La République En Marche. Ça n'avait pas donné lieu à un battage médiatique pareil. Et ça n'avait pas marché du tout, d'ailleurs. C'est-à-dire que là où les candidats républicains se présentaient avec des candidats, en prenant des candidats à La République En Marche, ils ont fait des très très mauvais scores. Ça n'a pas marché. Là, il y a vraiment eu la... Ça aurait pu, on peut se dire que ça aurait pu faire moins de bruit, mais il y a eu une volonté manifeste. En envoyant Jean Castex faire une déclaration dimanche, il y a une volonté de nationaliser l'affaire. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie, effectivement, il y a une volonté de la part de La République En Marche, de fractionner un peu plus les Républicains. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est qu'on pouvait penser, après quatre années de quinquennat, que en fait le siphonnage de la droite par La République En Marche était terminé, que les choses s'étaient stabilisées, que c'était fini. En fait, ce que nous apprend ce psychodrame en cours, c'est que c'est pas fait, c'est qu'il y a encore une partie de la droite qui trouve Emmanuel Macron plus à droite qu'elle ne l'est. Donc la dislocation des Républicains continue. Peut-être juste par rapport à votre question initiale sur l'attitude de Sophie Cluzel, oui. Là, effectivement, on n'y comprend plus rien, mais moi, je trouve qu'elle est très ambiguë dans ses propos. Elle ne dit pas qu'elle va monter une liste, elle dit « je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée ». Elle le dit deux ou trois fois.
Et elle appelle toutes les forces démocratiques et progressistes à la rejoindre.
Mais alors, souvenez-vous, au moment où l'affaire démarre, c'est-à-dire dès le lundi, vous avez Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui pendant que les Républicains se réunissent en conclave, s'engueulent copieusement, enfin, ils jouent tout ça entre eux, vous avez quand même un Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit « si, il y aura des membres de La République En Marche sur la liste de Renaud Muselier ». En fait, d'entendre, c'était, eux ne le concevaient pas comme un retrait, mais comme une fusion. Et je me demande si, dans quelle mesure Sophie Cluzel n'a pas renoncé à cela, en fait, si simplement elle pense qu'il n'y a pas moyen d'imposer un certain nombre, contrairement aux déclarations de Renaud Muselier, d'imposer un certain nombre de membres de la République En Marche sur une liste commune. Ça me paraît mal parti, mais je trouve qu'on est en pleine confusion dans cette histoire. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'à l'arrivée, c'est un cadeau formidable qui est fait à Thierry Mariani et au Rassemblement National. Parce que le message derrière, il est très clair, c'est de dire, mais la vraie opposition, c'est le Rassemblement National. Regardez les Républicains. Ils prétendent être en opposition avec le gouvernement et la politique conduite. Ce n'est pas vrai. Ils font alliance. Mmh. Et le vrai risque dans cette histoire, c'est qu'un Thierry Mariani prenne la région PACA. Et si ça arrive, je vous promets que la suite de l'histoire ne sera plus du tout la même. Si Thierry Mariani gagne en PACA, tout le débat politique dans l'année qui va nous rester avant la présidentielle, il va être totalement hystérisé. Parce que tout le monde le verra comme les prémices d'une victoire de Marine Le Pen sur la même mécanique pour 2022.
Guillaume Tabar, vous êtes d'accord avec ça? Il peut gagner en PACA, Thierry Mariani, à la faveur de ce cafouillage?
Oui, il peut gagner. Rappelons qu'en 2010, Thierry Mariani était tête de liste de l'UMP dans la même région PACA. Donc, il était le porte-parole de toute la droite à l'époque. Donc, vous voyez, il n'est pas un repoussoir pour l'électorat de droite. Puis c'est vrai que tout le monde, là, que ce soit aussi bien LR qu'En Marche, a tout fait pour faciliter le vote en sa faveur. Juste un mot sur la date, parce que c'est vrai qu'on focalise sur le choix d'Estrosi et de Falco de quitter LR. Bon, c'est pas une surprise. Et qui disent qu'ils voulaient soutenir Macron dès le premier tour de la présidentielle, ils l'avaient déjà dit avant même les prémices de ce régional. Donc c'est plus une confirmation qu'un élément qui vient perturber à nouveau le jeu à droite.
Vous ne pensez pas qu'il y aura d'autres démissions là, dans les prochains jours?
Peut-être, mais ce que je trouve plus intéressant de ce point de vue-là, c'est que Xavier Bertrand, qui, souvenez-vous, en 2017, quitte les Républicains et, pour le coup, crée une fracture à droite entre la ligne Wauquiez et la sienne, et même Valérie Pécresse le suit et quitte aussi les Républicains. Or là, aussi bien Xavier Bertrand que Valérie Pécresse ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas de cette alliance avec En Marche des premiers tours. Donc, d'une certaine manière, la droite, et je pense qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont plus représentatifs de l'ensemble de l'électorat de droite que Hubert Falco ou Christian Estrosi, qui ont une position de force dans leur ville, mais qui n'incarnent pas la droite au niveau national. Quelque part, cet épisode a plutôt ressoudé l'ensemble de la droite ou des droites qui s'étaient divisées après 2017 sur une ligne d'opposition à Emmanuel Macron.
Ah oui, vous pensez vraiment ça? Vous êtes d'accord, Jean Garrigue, que ça a plutôt ressoudé la droite? Donc, c'est Emmanuel Macron, il a échoué. Si tant est qu'il avait envie de...
Le dernier épisode semble avoir ressoudé. à cette, comment dire, à cette nuance près que Xavier Bertrand, auquel on se réfère, rappelons-le, précisément, il a quitté les Républicains. Je veux dire, par là, qu'on voit très bien, qu'on va assister quand même à ce paradoxe assez unique dans l'histoire de la droite française, c'est que vraisemblablement, le candidat en position éventuellement de l'emporter à l'élection présidentielle de 2022 au nom de la droite ne sera plus membre du principal parti de la droite. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'avait fait Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, n'aura pas construit sa victoire sur la maîtrise du parti, mais sur une trajectoire externe qui lui permet de reconstituer cette alliance traditionnelle qui fait la victoire des droites. Le problème étant évidemment que sur sa gauche, il aura Emmanuel Macron et sur sa droite, Marine Le Pen et donc en PACA, Thierry Mariani. Donc on va assister à quelque chose de tout à fait inhabituel. Bon, on comprend pourquoi ce qui s'est passé en 2017 a fait exploser les lignes, les partisanes. Mais on peut considérer qu'ils se sont un peu resserrés, mais en même temps, on voit très bien que la solution, elle est hors du parti.
Bien, je vous signale que Thierry Mariani sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Les Échos CNews ce dimanche à 10h. Je vous remercie. Merci beaucoup les grandes voix du vendredi de m'avoir accompagné ce soir.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, ce sera le retour de l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre. À tout de suite.